Bonjour Olivier Roy.
Bonjour.
Olivier Roy, chercheur au CNRS, spécialiste de la question afghane. Rien ne semble les arrêter. En Afghanistan, les talibans se sont emparés hier d'Herat, à l'ouest, proche de la frontière avec l'Iran, Ghazni, au sud de Kaboul, et Kandahar, la deuxième ville d'Afghanistan. Lashkargah, la capitale du Helmand, au sud, toujours, est tombée cette nuit. Toujours hier, l'ambassade des États-Unis à Kaboul a demandé à ses ressortissants de quitter l'Afghanistan. L'Allemagne fait pareil. Les Britanniques envoient des troupes pour évacuer les leurs, tout comme les Américains. Alors si on prend les données une à une, Olivier Roy, on a l'impression d'un sauf-qui-peut côté occidental, parce que finalement, on a l'impression aussi que la chute de Kaboul est très très proche.
Oui, on se retrouve dans la situation où on était dans au milieu des années 90 avec des phénomènes d'avancée brutale et soudaine des talibans qui parfois peuvent être arrêtés, mais bon, la raison c'est tout simple, c'est que l'armée ne se bat pas et les talibans font des accords avec les autorités locales parce qu'il n'y a pas vraiment de bataille. Les talibans vont donc avancer, ils vont arriver à Kaboul. Là, l'armée va essayer de résister. À mon avis, elle résistera pas, donc on va vers la chute de Kaboul.
Et justement, Kaboul a proposé aux talibans un partage du pouvoir en échange de l'arrêt des violences dans le pays. Est-ce que c'est pas trop tard ?
Oui, complètement. Mais ça n'a jamais été d'actualité. Les talibans n'ont jamais eu l'intention de négocier, de partager le pouvoir, etc. Ils vont foncer. Et ça, les Américains ont été un peu surpris par ça. Je crois que les Américains s'attendaient à ce que les talibans négocient ou acceptent du moins de sauver la face des Américains. Or, les talibans s'en fichent complètement. Ils foncent.
Et justement, les États-Unis, vous en parlez, Olivier Roy, ils ont annoncé l'envoi de 3000 soldats à Kaboul pour sécuriser l'évacuation d'une partie du personnel de l'ambassade. Impossible d'imaginer que les États-Unis soient dans l'idée d'empêcher la reprise de Kaboul.
Non, ils essaieront même pas. Mais à mon avis, les talibans vont pas attaquer les Américains du tout. Ils vont les laisser partir tranquillement et puis ils vont prendre le pouvoir et qu'ils ne partageront pas.
Et imaginons, Olivier Roy, Kaboul tombe. À quoi ressemblera l'Afghanistan demain ?
Alors c'est la grande question, parce que les talibans ont déjà pris le pouvoir il y a 25 ans, donc on sait ce qu'ils ont fait, ils ont imposé la charia, ils ont imposé la burqa, toutes ces choses-là, ils ont interdit les écoles de filles, etc. Mais l'Afghanistan a beaucoup changé en 25 ans, surtout la ville de Kaboul, on a maintenant des millions d'habitants, toutes les personnes de moins de 30 ans n'ont jamais connu le temps des talibans, c'est une ville très occidentalisée aujourd'hui, où les gens sont branchés sur internet, ce qui n'était évidemment absolument pas le cas il y a une vingtaine d'années, donc il va y avoir un choc culturel considérable. Dans les campagnes, les talibans n'ont pas de problème, ils partagent la même culture que les gens. Mais à Kaboul, ils vont se retrouver devant un monde qui pour eux est tout à fait nouveau. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et là, soit ils vont être beaucoup plus souples qu'il y a 25 ans, ils ont un peu tiré les leçons de leur échec de 2000, soit ils vont revenir et refaire exactement ce qu'ils ont essayé de faire il y a 25 ans. Et là, on est devant l'inconnu.
Et justement, Olivier Roy, vous parlez des talibans, les talibans d'hier ne sont pas les mêmes aussi que ceux d'aujourd'hui.
À la base, si, c'est ça le problème. Les talibans n'ont pas changé. Ce qu'ils ont fait, c'est ils ont adapté et affiné leur politique. Ils négocient, ils tiennent un discours relativement acceptable pour les Occidentaux, ils s'engagent à respecter les frontières, les accords internationaux, à ne pas donner asile aux terroristes, etc. Donc ils donnent, en gros, toutes les garanties qu'ils ne seront pas un problème international. Et en échange, ils exigent qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent en Afghanistan. Maintenant, il y a des dynamiques locales qui vont se développer. Bon, il y aura quand même des zones de résistance. D'autre part, les talibans, par exemple, sont traditionnellement très anti-chiites. Il y a eu des massacres de population dans les années 90. Il est certain qu'ils ont négocié avec l'Iran et qu'ils se sont donc engagés à éviter ces massacres, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Il va y avoir des dynamiques à la base. La situation peut très bien leur échapper. Là, ils sont dans une dynamique de victoire. Mais une fois qu'ils vont être au pouvoir, est-ce qu'ils vont être capables de gérer le pays ? C'est une autre affaire.
Oui, c'est la question. Est-ce que les talibans ont les moyens de diriger le pays ? Est-ce qu'ils ont suffisamment de leaders ? Est-ce qu'ils ont les moyens de tout ça, économiquement même ?
Alors, ils vont avoir besoin de technocrates. Je pense qu'ils sont suffisamment malins pour accepter donc un appareil d'État, pour reprendre l'appareil d'État tel qu'il est aujourd'hui, en l'épurant bien sûr, et pour tenter de gérer le pays. Mais j'ai des doutes sur la capacité sur le long terme. Ce ne sont pas des gestionnaires, ce sont aussi des idéologues. Ils veulent imposer la charia et on ne fait pas fonctionner un pays vie avec la charia. Un, on va continuer à avoir une certaine guerre civile en Afghanistan, et deux, ils vont pas être capables de répondre aux besoins de la société afghane. Un des grands problèmes, par exemple, c'est la drogue. Il est évident que les talibans vont pas interdire la culture de l'opium en Afghanistan. Donc on va se retrouver devant un narco-État ou bien le contrôle de la campagne par des narcotrafiquants.
Olivier Roy, l'Afghanistan, vous connaissez bien ce terrain-là. Les Russes s'y sont cassés les dents, les Américains s'y sont cassés les dents. Comment on peut expliquer de tels échecs ?
Parce que on n'a jamais tenu compte de la sociologie de l'Afghanistan, où c'est un pays où ce qui compte, c'est les solidarités locales, claniques, tribales, ethniques, religieuses, tout ce que vous voulez. Et on a toujours eu une lecture idéologique, communiste contre islamiste, laïque contre fondamentaliste, etc., etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ceux qui ont envahi l'Afghanistan n'ont jamais maîtrisé le jeu des alliances et des conflits locaux. Par contre, les talibans, eux, ce sont des Afghans. Ils maîtrisent ça très très bien. Ils jouent un jeu très subtil. On le voit par leur victoire d'aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut effectivement mettre fin à ce qui aura été près de 2 siècles d'intervention extérieure en Afghanistan.
Il y en a eu encore récemment avec les discussions à Doha. Et l'Afghanistan, c'est un peu aussi l'échec de la communauté internationale. Il n'y a pas que les Américains, il n'y a pas que les Russes. C'est l'OTAN, c'est l'ONU, c'est Bruxelles aussi. C'est l'échec aussi de la diplomatie mondiale.
Pas de la diplomatie, parce que dans le fond il y avait un relatif accord avec les autres pays. C'est l'échec d'une construction de l'État par l'extérieur. Hein. C'est-à-dire qu'on est arrivé en Afghanistan avec l'idée de construire un État clé en main. On a déversé des milliards de dollars dans le pays, mais on n'a pas essayé de comprendre comment un État peut s'implanter. On n'a pas essayé de comprendre la tradition de l'État afghan. Parce qu'il y avait un État afghan, mais qui fonctionnait avec des compromis locaux. Et ça, on a ignoré et tout ça. Donc je crois que c'est l'échec de cette politique, ce qu'on appelle le state building en anglais, de construire des États comme ça, démocratiques, efficaces, États de droit, etc. On a vendu en gros l'intervention en Afghanistan en 2001 en disant on va libérer les femmes afghanes. Bon, c'est comme ça que ça a marché avec l'opinion publique. Et un, évidemment, on les a pas libérées. Et deux, évidemment, c'était pas l'objectif. Donc il y a un certain discours, je dirais, humanitaire qui tombe complètement à côté des réalités sociologiques et des réalités géopolitiques.
Et qui aujourd'hui a les cartes en main, l'oreille des talibans ? Qui les écoute ? La Chine par exemple ? Ça pourrait être le nouvel acteur ?
La Chine est complètement pragmatique. La Chine discute avec qui que ce soit qui est au pouvoir à Kaboul. La Chine n'est jamais intervenue dans la cuisine interne de l'Afghanistan. Elle a toujours été d'un cynisme total de ce côté-là. Et du coup, les talibans ont confiance dans les Chinois parce qu'ils savent que leur problème n'est pas d'imposer tel ou tel type de régime. Le pays qui croit avoir l'oreille des talibans, c'est le Pakistan. Le Pakistan est persuadé que ça y est, maintenant, ses alliés vont être au pouvoir à Kaboul et que le Pakistan va pouvoir jouer... être très influent en Afghanistan. Et c'est une erreur totale. Les tensions entre Afghanistan et Pakistan vont émerger dès que les talibans auront pris le pouvoir à Kaboul.
Et le risque à terme, c'est aussi une crise migratoire, les Afghans qui quittent le pays.
Oui et non, parce que le problème, je dirais, c'est très largement Kaboul. Comment cette population urbaine, relativement occidentalisée, etc., va supporter les talibans. Et comment les talibans vont les traiter ? Mais dans les campagnes, le pouvoir des talibans, c'est pas une catastrophe. Tant qu'ils se livrent pas à des épurations ethniques, par exemple, contre les chiites, il semble qu'ils soient prudents de ce côté-là. La situation est pas pire maintenant qu'elle était il y a 5 ans ou il y a 10 ans.
Merci beaucoup, Olivier Roy, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la question afghane, d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Merci et belle journée.